Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 13 décembre. Philippe Cochet doit démissionner de son mandat de maire de Caluire en raison de sa peine d'inéligibilité prononcée cette semaine par le tribunal correctionnel de Paris. Les hospices civils de Lyon expérimentent depuis l'automne 2023 la semaine de 4 jours et ça marche plutôt bien. Nous verrons pourquoi dans cette édition. L'installation de la 2579e et dernière borne à compost dans la métropole de Lyon, c'était hier à Saint-Genis-Laval. Nous parlerons également du cocon solidaire, la yourte dans le 8e arrondissement, une nouvelle antenne du foyer Notre-Dame des Sans-Abris qui accueille ce week-end un marché de Noël. Et puis face à Francfort, l'Olympique lyonnais s'est imposé 3-2.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour finir la semaine et avant une très légère remontée des températures, il fera très froid ce vendredi à Lyon. Moins 1 degré ce matin, pas plus de 3 degrés cet après-midi. Une nouvelle journée grise est attendue à Lyon avant l'apparition de légères pluies en soirée et la nuit prochaine. Philippe Cochet doit donc démissionner de son mandat de maire de Caluire en raison de la peine d'inéligibilité prononcée par le tribunal correctionnel de Paris. Le conseil municipal doit donc désigner un nouveau maire parmi les candidats qui se déclareront. Mais l'opposition de gauche va plus loin et préférerait que les électeurs retournent aux urnes dans le cadre de nouvelles élections municipales. Il faudrait pour cela une démission massive de conseillers municipaux, ce qui est bien peu probable. Il n'y aura donc pas d'élection partielle à Caluire. On parle de Bastien Join pour éventuellement succéder à Philippe Cochet. Les hospices civils de Lyon expérimentent depuis l'automne 2023 la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours a été expérimentée en effet dans les services de neurochirurgie de l'hôpital Pierre Wertheimer, de pneumologie de l'hôpital Louis Pradel et également de gynécologie obstétrique de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. 112 infirmiers et aides-soignants et aides-soignantes expérimentent la semaine de 4 jours au sein de ces 3 services de soins du groupement hospitalier Est des hospices civils de Lyon. Les journées de 7h30 sont donc désormais devenues des journées de 8h50 de travail, un changement très apprécié. 3 autres services des hôpitaux Est vont donc s'ajouter à la liste en janvier prochain, le service de neuro-oncologie de l'hôpital Pierre Wertheimer et 2 services de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. Plusieurs professionnels de l'unité de soins médicaux et réadaptation de l'hôpital Lyon-Sud se sont également intégrés à l'expérimentation. L'installation de la 2579e et dernière borne à compost dans la métropole de Lyon marque la finalisation d'un dispositif lancé en 2021. Un dispositif mis en place d'abord dans le 7e arrondissement. La dernière borne à compost a été installée hier à Saint-Genis-Laval. Ce sont désormais 1,1 million d'habitants qui sont desservis par l'une de ces bornes à proximité de leur lieu d'habitation. En moyenne, dans les 34 communes concernées par ce déploiement, chaque habitant se trouve à une centaine de mètres d'une borne à compost.
Lyon Demain, découverte.
Le foyer Notre-Dame des Sans-Abris a ouvert un nouveau lieu dans le 8e arrondissement. Il y a eu le foyer de la rue du Perchebrier dans les années 50, mais en 70 ans, l'association a aussi ouvert d'autres foyers, également des résidences, des accueils de jour, des centres d'hébergement, également des centres de réinsertion sociale, des villages familles ou encore des points santé. Et puis, il y a aussi des tiers-lieux tout récemment, en particulier le tiers-lieu des Grandes Voisines à Francheville. Et en 2024, la yourte a vu le jour dans le 8e arrondissement. Pour nous en parler, nous sommes avec Marine Liégeois. Marine, bonjour.
Bonjour.
Expliquez-nous un petit peu la genèse de ce projet, la yourte.
Donc la yourte, c'est un projet qui a vu le jour dans le cadre du programme Merging, qui est un programme mené dans le cadre de H2020 par l'Union européenne. En fait, c'est un projet de recherche-action pour expérimenter des nouveaux modes d'accueil des personnes en exil et observer les facteurs d'intégration sociale de ces personnes. Donc c'est un projet qui a été construit en partenariat avec l'Université Jean Moulin, Lyon 3, l'association 14, qui est une association d'architectes, et donc le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Il y a 3 pilotes qui ont vu le jour en Europe, un en Suède à Göteborg, un à Valence en Espagne et ici à Lyon.
C'est en quelque sorte une expérimentation au niveau européen, on peut dire ça comme ça ?
Exactement. Et donc on fait partie de cette expérimentation en ayant un site pilote à Lyon.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette expérimentation ? C'est quoi exactement le sens de cette yourte ?
Le projet tel qu'il est construit à Lyon, en fait, c'est à la fois un site d'hébergement et un tiers-lieu. Côté hébergement, on a 7 tiny houses sur un terrain dans le 8e, 5 qui sont destinés à des personnes en exil, donc des personnes réfugiées, et 2 à des personnes autonomes sans difficulté particulière qui sont locataires d'une tiny et qui ont en fait envie d'expérimenter ce mode d'habitat. Donc ça nous permet d'expérimenter de la mixité dans l'hébergement pour sortir des schémas classiques de ghettoisation, on va dire, des personnes hébergées. Et puis la yourte, elle a pour vocation à être à la fois l'espace commun pour les personnes qui habitent sur le site, mais aussi un lieu d'accueil qui est ouvert au quartier et aux voisins, aux riverains, pour créer du lien, favoriser les rencontres autour d'activités, d'animations et d'événements variés.
Alors qu'est-ce qui se passe au quotidien sous la yourte par exemple ?
Alors au quotidien à la yourte, il peut y avoir des choses très très différentes. À la fois, c'est là qu'on propose un accompagnement social pour nos bénéficiaires qui sont hébergés ici. On peut y faire des repas partagés. On a différents types d'animations qui sont co-construites à la fois avec les habitants, mais aussi avec les riverains. Ce soir, par exemple, on a un atelier d'écriture qui aura lieu, un atelier d'écriture créative qui est proposé par une voisine du quartier qui est autrice. Parfois, on a des soirées jeux. Parfois, on a des temps conviviaux plutôt type apéro. Ça peut être très, très varié.
Quel a été l'accueil que vous avez eu dans le quartier de la part des gens qui habitent le quartier?
On a la chance d'avoir pu organiser des réunions publiques assez tôt pour bien présenter le projet, enfin favoriser sa compréhension auprès des habitants du quartier. Et donc, même s'il y a eu quelques petites craintes au démarrage, finalement, c'est un projet qui a été plutôt bien accepté. Et aujourd'hui, les voisins sont assez enthousiastes et ils viennent avec plaisir, ont même plutôt envie de créer des liens avec les habitants qui vivent ici, donc sont plutôt plutôt enthousiastes à l'idée de ce projet-là et participent justement aux différentes instances de gouvernance qui permettent d'imaginer des activités qui plaisent à tous.
Et l'implication, j'ai l'impression, a commencé dès le début, dès l'installation de la yourte.
Tout à fait, puisque la yourte a été construite en chantier participatif au mois de septembre 2023, donc il y a des voisins du quartier qui ont participé à la construction de la yourte.
On est dans le quartier de la rue Bataille, 173 rue Bataille. C'est quoi ce quartier? L'environnement, c'est quoi?
C'est un quartier qui est assez mixte, c'est une rue assez résidentielle avec des pavillons. Mais à grande proximité, il y a aussi des immeubles et du logement social. Donc c'est vrai que c'est une population très mixte dans le quartier, qui permet aussi des rencontres très intéressantes.
Comment se sont insérées les familles des réfugiés finalement?
Alors on n'est pas vraiment sur des familles, on est plutôt sur des personnes seules ou des couples. Il y a le collectif, on va dire, en interne sur le lieu qui se crée petit à petit, qui se construit. Et puis il y a aussi une envie de leur part de pouvoir accueillir des voisins du quartier sur des événements spécifiques à la yourte. Par exemple, c'est eux qui ont voulu organiser une soirée Halloween et qu'on souhaitait convier les voisins. Ça a été une super soirée où il y a une trentaine de personnes qui sont venues. Petite précision, 30, c'est la capacité maximale d'accueil dans la yourte, puisque c'est pas très grand. Donc c'était très chouette et c'était à leur initiative. Donc il y a à la fois une volonté de pouvoir rencontrer les personnes du quartier, mais aussi, et ce qui est bien normal, d'avoir un chez-soi et donc de pouvoir passer du temps aussi en intimité et être chez soi sans avoir forcément à vivre du collectif en permanence.
Au global, qu'est-ce que ça leur apporte? C'est évidemment une insertion dans la société.
En premier lieu, ça leur apporte un toit et justement le fait de pouvoir vivre de manière plus sereine en ayant un hébergement qui soit de qualité et qui soit aussi autonome, puisque dans la plupart des centres d'hébergement, en fait, il y a beaucoup de collectifs, les cuisines sont partagées, les salles de bain également. Là, au moins, c'est vraiment un mode d'hébergement plutôt autonome et intimiste. Et puis, dans un deuxième temps, ça leur apporte justement du lien social avec les activités qui peuvent être menées dans cette yourte pour pouvoir s'insérer un petit peu en rencontrant les personnes du quartier, en fait, qui sont ouvertes aussi à la rencontre et à la création de liens.
Ce sont des gens qui sont dans quelle situation personnelle?
Les personnes hébergées, elles détiennent tout un titre de séjour, puisque c'était l'un des critères qui a été défini dans le cadre du programme Merging, le programme européen. Donc, elles ont un titre de séjour et donc la plupart, en fait, travaillent, puisqu'elles ont la capacité de le faire. Il y a une personne qui est en cours d'apprentissage du français pour pouvoir justement ensuite être insérée dans la vie professionnelle. Les autres ont une vie somme toute classique, c'est-à-dire qu'ils ont un emploi et donc participent aux activités tout sur un calendrier soir et week-end.
Et ensuite, je suppose, un programme également pour les aider à se trouver un logement, je dirais, plus conforme.
Oui, tout à fait. On a aussi donc un volet accompagnement social des personnes, des bénéficiaires, avec la recherche d'un logement pérenne. On les accompagne justement vers... c'est quand même un objectif, évidemment, là, pour eux, c'est du temporaire. Donc, accompagnement vers la recherche d'un logement. Ça peut être aussi accompagnement sur les démarches administratives assez variées. Enfin, voilà, en fait, on les aide à faire leur démarche, quelle qu'elle soit, et surtout à s'autonomiser sur ces démarches-là.
Dans cette volonté de s'ouvrir sur le quartier, vous organisez en cette période de Noël un marché de Noël qui est un marché local et solidaire. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer, je crois que c'est ce week-end.
Oui, tout à fait, c'est donc dimanche 15 décembre, ce dimanche. C'est une idée qui a émergé lors d'un des comités de programmation qu'on organise justement avec les habitants et les riverains pour faire émerger des envies et des besoins à l'échelle du quartier. Et donc c'est un marché où on aura des stands de créateurs et créatrices locaux et certains même du quartier qui habitent à grande proximité du lieu, qui ont des talents qui pourront exposer lors du marché. Donc on aura une dizaine de stands de créateurs. Il y aura aussi des ateliers. À 11h le matin, il y aura un atelier confection de bougies fleuries. Et l'après-midi, un atelier furoshiki, qui est donc une technique d'emballage de cadeaux en tissu. On aura des animations toute la journée avec de la musique et d'autres surprises que je vais pas forcément dévoiler. Et puis un stand de vin chaud et crêpes pour se réchauffer.
Est-ce qu'on peut dire que la yourte, c'est un projet qui est appelé à se dupliquer peut-être dans d'autres quartiers de Lyon, dans d'autres villes, pourquoi pas, voire en Europe ?
Alors c'est une bonne question, c'est encore un petit peu tôt pour le dire puisqu'on a ouvert il y a 6 mois. C'est justement l'objectif de notre mesure d'impact qu'on est en train de mener et qu'on va mettre en place sur les années à venir. Cette mesure d'impact va pouvoir nous permettre d'observer les effets de ce projet pour pouvoir envisager effectivement une réplicabilité. L'objectif étant vraiment de s'ancrer sur un territoire et d'observer les impacts que ce type de lieu peuvent avoir à la fois sur le territoire et les personnes qui y habitent déjà, et à la fois sur des nouvelles personnes accueillies en France.
Merci beaucoup Marine Liégeois d'avoir répondu à nos questions concernant d'une part la yourte et le marché de Noël qui s'y déroule donc dimanche. C'est au 173 rue Bataille dans le 8e arrondissement. Merci.
Merci Gérald.
Enfin, face à Francfort, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 3-2 sur sa pelouse du Groupama Stadium. Les Lyonnais ont ainsi assuré leur qualification au minimum au barrage de Ligue Europa. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi pour la prochaine édition. Excellente journée.